quelques instants. Alors, je vais m'organiser comment ici? Là. Tac. Excusez-moi, je m'organise sur mon ordinateur. Vous m'entendez bien? Ça va, si je parle comme ça, c'est suffisamment fort, c'est bon? Ou il faut que je parle plus fort? Je sais que j'ai tendance à parler vite, à pas trop articuler. Je vais essayer de faire un effort. Faites-moi des grands gestes si vous sentez que ça s'accélère. Super. Super, super. Alors, on fête aujourd'hui la résurrection de Jésus. Un jour extraordinaire. Un jour comme aucun autre. Un jour d'immense joie pour l'humanité tout entière. On l'a chanté, on l'a prié, on l'a déclaré Christ est mort. Il a été crucifié, le Fils de Dieu a été mis à mort, puis porté au tombeau, et 3 jours plus tard, son corps n'était plus là, et il est ressuscité, comme l'avaient annoncé les Écritures, et Jésus lui-même à ses disciples. Il fallait que le Fils de Dieu soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour, hein, comme tu nous l'as rappelé au travers de ton texte, Eric. Il est notre Pâque, il est l'agneau qui a été immolé pour nous. Il est celui qui a été donné par Dieu pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est celui qui n'a pas connu le péché, mais qui a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Pourtant, la résurrection de Jésus reste un événement les plus controversés au monde. Même dans le cercle le plus restreint de Jésus, ses propres disciples, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas compris ce qui était en train de se passer. Même après que plusieurs d'entre eux l'aient vu de leurs propres yeux, il y en avait un encore qui doutait, Thomas. Il ne pouvait croire l'inimaginable. Il ne pouvait croire l'inimaginable. Voilà, je vous invite, on va lire le chapitre 20 de l'évangile de Jean en entier ensemble. Et puis on va regarder ensuite ce qu'il nous dit. On y va. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit des bandelettes qui étaient là, pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. Car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit les choses, dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit: Que la paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Jésus a été crucifié. 3 jours après, il apparaît aux disciples qui s'étaient enfermés par peur. Ils n'en reviennent pas. Jésus les rassure et leur donne une mission. Mais voilà ce qui se passe avec Thomas. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas ses mains, la marque des clous, si je ne vois pas mon doigt, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Et Jésus vint, les portes étant fermées. Et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Puis, il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Un texte très très riche. Seigneur, je te prie de nous parler ce matin à chacun. Qu'au travers de ta parole, Seigneur, tu touches notre cœur, tu touches nos pensées, Seigneur, tu renouvelles notre intelligence, Seigneur, que tu nous apprennes à encore mieux te voir, encore mieux te connaître. Nous avons besoin de toi dans nos vies, Seigneur. Nous voulons marcher à ta suite, Seigneur. Nous voulons être à ton service. Aussi, donne-nous de te voir, Seigneur, comme les disciples t'ont vu, Seigneur, de comprendre comme ils ont compris, Seigneur. Merci de faire cela, Seigneur, par ton esprit, dans nos cœurs, dans nos pensées. Amen. Amen. Alors pourquoi, je nous pose la question, Thomas doute. Il a suivi Jésus pendant plus de 3 ans. Il a entendu son enseignement. Il a vu ses miracles. Il a même vu des résurrections. Pourquoi Jésus ne pourrait-il pas ressusciter? Pourquoi? Pourquoi? Il connaît ses compagnons, ils étaient 12 disciples, il a œuvré avec eux tout ce temps, il a vécu avec eux, il a mangé avec eux, il a traversé des épreuves avec eux, il a eu des moments de joie, il a eu des moments de défi, il leur fait confiance. Mais là, quand les disciples lui disent « on a vu Jésus », il ne les croit pas, il doute. Pourquoi? Il a entendu l'enseignement de Jésus qui a annoncé qu'il lui faudrait mourir puis ressusciter. Si on regarde dans les évangiles, chapitre 9 de Luc, verset 22, ou dans Matthieu, à plusieurs reprises, Jésus leur annonce qu'il lui faut mourir et que 3 jours après, il va ressusciter. Mais je ne sais pour quelle raison Thomas n'a pas retenu cette parole. Il l'a ignorée, il l'a mis de côté. Ça cadrait sans doute pas avec la conception qu'il avait de ce que le Messie, le libérateur, devait être ou devait faire, sans doute. J'aimerais dire que les raisons qui motivent nos croyances ne sont pas toujours basées sur des faits rationnels. Nos croyances sont influencées parce qu'on a envie de croire ou de ne pas croire, parce qu'on est influencé par nos désirs, nos envies personnelles. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé ces questions, mais par exemple, je ne peux pas imaginer que si Dieu est Dieu, il puisse agir comme ça. Ou il aurait dû, ou il devrait. Pourquoi il ne fait pas comme ça, etc., etc. Vous savez, c'est ces genres de questions où on a une idée de Dieu et on se demande pourquoi. Pour Thomas, intégrer que Jésus était un prophète, ok, pas de problème avec ça. Voir que Jésus fait des miracles, ça c'est cool. Ça c'est cool, c'est bien l'image que j'ai du Fils de Dieu. Peut-être Jésus est le Messie, alors là, carrément pour Thomas, surtout le Messie qui va régler nos problèmes, faire fuir nos envahisseurs romains, rendre nos vies meilleures et faire de nous un royaume puissant à nouveau, comme nous étions supposés être. Israël, le grand royaume de David. Puis Jésus doit mourir et ressusciter le 3e jour. What? Comment ça? Jésus doit mourir? Jésus doit mourir, c'est-à-dire? Non, 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 ça ne doit pas être ça, ça ne me va pas. Ça colle pas, ça colle pas du tout. Il n'y a pas de place dans l'esprit de Thomas pour cette affirmation, c'est trop. Jésus, tu devrais mourir? Non, ça ne peut pas forcément être ça. Ça ne peut pas être ça. Et à cet instant, il doute parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas accepté l'enseignement de Jésus dans sa globalité. Ce n'était pas ce dont il avait envie. Ses espoirs sont morts à la crucifixion de Jésus. Ses espoirs sont morts à la crucifixion de Jésus. Et la vérité, c'est que la plupart des gens ont une conception de ce que Dieu devrait être, ce que Dieu devrait faire. Et parce que ce n'est pas en phase avec leurs envies, ils ne veulent pas y croire, ils ne veulent pas le suivre, ils ne veulent pas en entendre parler. Ces désirs égoïstes qu'on peut avoir dans nos cœurs peuvent nous éloigner de la connaissance de Jésus. Il n'y a qu'une seule vérité, digne de confiance, digne d'être crue, acceptée dans sa globalité. Et elle est là. Elle est là. Il n'y a rien à y ajouter. Il n'y a rien à y retrancher. Tout est là. Si tu veux rencontrer Dieu, le connaître qui il est réellement, elle est incontournable. Dieu n'est pas le fruit de tes désirs. Il n'est sûrement pas le fruit de tes rêves ou de tes envies les plus fous. Il est celui qui est révélé au travers de la parole, au travers de son Fils, Jésus-Christ. Et les désirs égoïstes de nos cœurs peuvent nous éloigner de la connaissance de Jésus. Alors, quels peuvent-ils être? J'aimerais en citer quelques-uns. Des désirs liés à l'image qu'on veut renvoyer de soi, peut-être. Être chrétien, alors quand je dis être chrétien, j'entends par là être disciple de Jésus. C'est plus que de venir au culte le dimanche matin d'assister aux réunions, mais c'est vraiment être disciple de Christ. Et peut-être, il y en a qui se posent la question et qui se disent être chrétien, c'est pas branché, c'est pas cool. Ce sont des gens bizarres, certains s'habillent de façon étrange. Ils écoutent de la musique qu'ils appellent de la louange, et puis ils ne se conforment pas à certaines évolutions de notre société. Ils veulent se préserver jusqu'au mariage. Ils sont contre les amours d'un soir. Ils parlent de fidélité. Ils rejettent certaines pratiques, comme l'homosexualité. Être chrétien, ce n'est vraiment pas quelque chose de top. Il y a quelque chose dans le cœur qui vous tient à l'écart, qui vous empêche d'aller plus loin. Peut-être est-ce une petite amie ou un petit ami. Si je deviens chrétien, si vraiment je me mets à suivre Jésus, il ou elle ne voudra jamais continuer notre relation? Peu importe. Si Jésus est ressuscité ou non, être chrétien, je n'en ai pas envie. Et parfois, l'image qu'on veut renvoyer de nous nous empêche d'avancer pleinement dans la vie que Dieu nous appelle à vivre. Elle nous empêche de le connaître vraiment et elle peut nous éloigner de lui. Ça peut être aussi un désir de rationalité, un désir de comprendre. Qu'on vous prouve la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qui me prouve que Dieu peut ressusciter son Fils? Qu'est-ce qui me prouve? Prouve-le-moi. Alors j'aimerais te répondre par une question. Si Dieu est Dieu, pourquoi ne le pourrait-il pas? Beaucoup de scientifiques ont voulu démontrer que Dieu n'existait pas. Mais plus ils creusaient, plus ils étaient convaincus du contraire. Albert Einstein a déclaré: Quiconque est sérieusement impliqué dans la science devient convaincu qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit infiniment supérieur à celui de l'homme, et devant lequel nous, avec nos pauvres pouvoirs, devons nous sentir humbles. Louis Pasteur aussi a dit, un peu de science, vous connaissez cette citation, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. Tu veux comprendre pourquoi nous sommes si convaincus? Tu veux comprendre pourquoi je suis si convaincu, tu dois parler avec moi. Je t'explique que je te donne les raisons pour lesquelles je suis si convaincu. Faut que tu fasses un parcours alpha, etc. Peut-être c'est des désirs de que Dieu agisse envers nous comme avec les autres. Sans doute Thomas, il a dû faire face à la déception et la tristesse. J'imagine. Peut-être je me trompe, mais j'imagine Jésus a été crucifié, son espérance, son rêve d'un grand royaume restauré face aux Romains a été anéanti. Et puis il y a eu la pression des autres qui ont vu Jésus. Mais tous deux disons qu'il est ressuscité. Thomas, nous disons que nous l'avons vu. Et les gens voient des miracles. Pourquoi je n'en vois aucun? Peut-être tu te poses cette question. J'ai entendu que Dieu répondait à la prière, mais il ne me répond pas à moi. Et peut-être c'est ton histoire. Vous entendez ce que Dieu fait dans les vies, mais il n'a jamais rien fait de tel dans la vôtre, quand bien même vous lui avez demandé. Et vous vous dites que Dieu est venu pour les autres, mais pas pour vous. C'est comme ça qu'on commence à prendre des distances. On se refroidit et un jour on se met à douter et à cesser de croire de tout son cœur. Pourquoi ne prend-il pas soin de moi? Pourquoi s'est-il montré aux 10 autres et pas à moi? Et Thomas est triste. Et ce genre de situation peut amener de la jalousie, de l'incompréhension, et puis petit à petit, du doute. Ça peut être aussi peut-être des désirs d'une vie paisible. Vous avez commencé à suivre Jésus, mais la vie avec Jésus, ce n'est pas la vie paisible que vous espériez. Comment ça? Il faut lire sa Bible? Comment ça? Il faut assister au culte? Il faut venir aux rencontres? Il faut se former? Il faut prendre du temps pour se former? Il faut témoigner? Il faut aimer même ceux que je n'aime pas? Comment ça? Mais j'ai pas le temps de tout ça. Peut-être vous avez face à la moquerie, ou peut-être vous avez été mis au défi. Peut-être toutes ces choses demandent du temps, et franchement, le temps, vous préférez le regarder, le prendre pour regarder peut-être des séries, je ne sais pas, des films, du bon temps, quoi. Jésus n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas d'épreuves, qu'il n'a jamais dit que ça serait facile. Suivre Jésus n'est pas la garantie d'une vie paisible, d'une vie facile. Il a même dit dans l'évangile de Matthieu, heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et tous ces désirs égoïstes, on va dire, peuvent nous détourner de Dieu, nous empêcher d'apprendre à le connaître davantage, peuvent nous mentir, peuvent nous berner, nous faire faire fausse route. Et j'aimerais vous dire qu'il y a une joie qui est réservée pour celles et ceux qui croient, qui se tournent vers Jésus et choisissent de le suivre pleinement. Une joie, on en a parlé ce matin, une joie indestructible, une joie qui durera jusque dans l'éternité. Merci pour ce passage de l'Apocalypse que tu nous as lu, Farid, ce matin. Une joie qui durera jusque dans l'éternité. Une joie qui, dès à présent, nous aide à traverser les épreuves, à traverser la douleur, à traverser la tristesse. Une joie qui nous aide à traverser la maladie aussi, la solitude. Le confinement. Jésus en avait parlé à ses disciples avant d'être torturé, battu, moqué par les foules, puis crucifié. On va le lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, les versets 19 à 28. Juste après ce que tu as lu, Eric, ce matin, quand Jésus partageait à ses disciples justement qu'un peu de temps, il ne le verrait plus, et puis qu'ensuite, il le verrait de nouveau, et les disciples ne comprenaient pas. Et Jésus voit ce que Jésus leur dit. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit: vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, a de la tristesse parce que son heure est venue. Quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa douleur à cause de la joie de ce qu'un homme soit venu au monde. Vous donc aussi, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous verrai de nouveau. Votre cœur se réjouira et nul, nul ne vous ôtera votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Votre tristesse sera changée en joie. Nul ne vous ôtera votre joie. Jésus nous parle ici de quelque chose de nouveau. Sa douleur, sa mort, puis sa résurrection vont donner naissance à quelque chose d'extraordinaire. Il va changer notre tristesse en joie. Il nous ouvre une perspective nouvelle qui dure jusque dans l'éternité. Les temps d'épreuve que nous vivons ici-bas ne sont rien à côté de la gloire qui est à venir. Ils ne sont rien à côté de la joie, de la gloire qui est à venir. Et j'aime bien cette image qui donne cette femme qui va accoucher. On pense à Agnès, on a prié pour elle. Peut-être c'est pas facile, peut-être il y a de la souffrance, mais il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui arrive. Et quand cette personne sera là, il va y avoir une joie dans le cœur d'Agnès, une joie dans le cœur de Sean. Et c'est cela aussi que le Seigneur veut nous dire. Je suis mort, mais je suis ressuscité. Il y a une joie qui vient avec ma résurrection. Il y a une joie indestructible, infaillible et qui va durer jusque dans l'éternité. Les épreuves que vous traversez, les souffrances que vous avez ne sont qu'éphémères. Le vrai ennemi que nous avons besoin de combattre, ce n'était pas les Romains pour Thomas, ce n'est pas les collègues peut-être qui peuvent se moquer de moi parce que je suis chrétien ou quoi que ce soit d'autre. Il y a un ennemi plus puissant, plus pervers, plus grand que n'importe quel autre ennemi que nous pourrions avoir dans la vie. Pire que la maladie, pire que le SARS-CoV-2, pire que le Covid. Je vous avouerai que depuis que le Covid s'est invité à la maison, c'est toute une organisation. Il y a un petit peu de stress qui est là, mais il est question de quelque chose d'encore pire que ça, pire que la pauvreté. Un ennemi qui est dans notre cœur, dans notre âme. Il est en chacun de nous et il s'appelle le péché, il s'appelle la mort. Et c'est le problème le plus profond de tous. Et Thomas, il avait besoin de comprendre cela. C'est l'ennemi que Jésus est venu combattre. C'est l'ennemi que Jésus est venu combattre. Le péché et la mort. Nous avons besoin de comprendre cela dans nos cœurs. Jésus veut le meilleur pour nous. Il veut combattre le mal le plus grand, l'esclavage du péché et de la mort. Et voilà comment l'histoire se termine et comment Jésus convainc Thomas. Il lui apparaît. Il se révèle à lui. Connaître le message de l'évangile n'est pas suffisant. Vous devez avoir une expérience personnelle avec Jésus, l'inviter à venir dans votre vie. Et quand on lit le texte, il ne semble pas que Thomas l'ait touché au final. Au verset 27, il est dit, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets la main dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et Thomas y répond, mon Seigneur et mon Dieu. Il dit juste, c'est beau, mon Seigneur et mon Dieu. Il n'essaye plus de le toucher pour se convaincre, il est juste émerveillé. Il n'a plus besoin des preuves dont il pensait avoir besoin pour croire. C'est comme avec un ami, on s'était fait le portrait de la femme idéale. Ma future femme sera comme ça, comme ça, comme ça, elle dira ça, elle pensera ça. On a tout plein de critères. Et puis un jour, j'ai été face à Claudie et cette liste, elle s'est évanouie. Je savais que c'était elle. Je savais que c'était elle. Elle était en face de moi. Et pour Thomas, c'était pareil. Jésus était en face de lui. Il n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il savait que c'était Jésus qui était en face de lui. Et il dit juste, mon Seigneur et mon Dieu. Il n'essaye pas de le toucher pour se convaincre, il est juste émerveillé. Je voulais te toucher, mais maintenant je te vois, je te comprends, je crois en toi. Jésus est le seul qui peut pleinement satisfaire les désirs de nos cœurs, nous satisfaire pleinement. On peut courir après plein de choses dans la vie, on peut passer du temps à chercher plein de choses, mais le seul qui pourra pleinement nous satisfaire, c'est Christ, c'est Jésus. Comment Jésus savait que Thomas voulait le toucher? Il le connaît. Et Dieu vous connaît. Il est toujours là. Il est capable d'être partout et de connaître la situation dans laquelle tu vis, dans laquelle nous vivons, les défis auxquels nous avons à faire face, les défis auxquels tu as à faire face. Il connaît les désirs de ton cœur. Il les connaît. Il est capable de compatir à tes souffrances. Il n'est pas indifférent. Lui-même a été humilié, torturé, crucifié, abandonné. Il est capable de compatir à tes souffrances. Bien que beaucoup d'hommes restent indifférents à l'histoire avec un grand H, l'histoire de l'humanité toute entière, ils en font quand même partie. Notre histoire est que nous avons été créés par Dieu et que nous nous sommes séparés de lui à cause de notre péché. Et dès cet instant, nous l'avons perdu de vue. Jusqu'à remettre même en question son existence. Les hommes mènent leur vie en avançant aveuglément vers la fin de leur histoire, vers leur mort, et parfois elle arrive bien plus vite que ce qu'ils n'espéraient ou ce qu'ils n'attendaient. L'actualité est là pour nous le rappeler. Et ils auront à comparaître devant lui, devant celui qu'ils ont rejeté, celui qu'ils ont voulu ignorer. Il est impossible à l'homme de se sauver lui-même. Aucun de ses plans. Aucun des plans qu'il pourra mettre en place ne sera suffisant pour se cacher, pour se sauver de cette comparution céleste. C'est impossible. Il peut l'ignorer, il peut fermer les yeux, ne pas y croire. Le fait est qu'il comparaîtra et qu'il sera jugé coupable. Coupable d'outrage envers Dieu et condamné pour l'éternité. Mais la beauté du message de Pâques est que le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Sur Jésus, sur le Fils même de Dieu. Le sang de Jésus a été versé pour nous sur la croix. On l'a chanté du ce matin, comme Jean-Baptiste a déclaré quand Jésus est venu à lui, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Toutes les Écritures rendent ce témoignage que Jésus est notre Pâque, l'agneau qui a été immolé pour nous, pour que toutes celles et ceux qui croient en lui soient délivrés de l'esclavage du péché, de la mort et du jugement. La condamnation que nous méritions est retombée sur lui. Amen. Jésus est mort et le troisième jour, il est ressuscité en ayant remporté la victoire contre notre plus grand ennemi. Pas les Romains, pas les moqueries, celui qui nous séparait de Dieu, le péché et la mort. Et toutes celles et ceux qui y reçoivent cet enseignement et qui y croient de tout leur cœur sont déclarés innocents devant Dieu. La dette ayant été déjà payée par Jésus, une nouvelle vie s'offre à eux avec Jésus. Une vie qui dure jusque dans l'éternité. Et ça, c'est la source de ma joie. C'est la source de ma joie, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi que j'ai à endurer. C'est mon espérance, c'est mon avenir. Mon avenir est en Christ. Ma joie est en Christ. Notre joie est en Christ, si vous lui avez donné votre vie déjà. Et je sais que la plupart d'entre vous l'avez fait. J'enfonce des portes ouvertes, mais ça me fait du bien de nous les rappeler. L'homme n'arrivera jamais à rationaliser le message de l'Évangile par sa compréhension, car sa compréhension dépasse ses capacités humaines. Ça nous l'est dit dans les Écritures, 1 Corinthiens 1, verset 18, « Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. Elle est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. » 1 Corinthiens 2, verset 14, « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. » Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il lui faut accepter ce message par la foi. Non pas une foi aveugle, mais une foi forte du témoignage que rendent les Écritures et de ses propres expériences vécues avec Jésus. Il est vivant, il nous connaît, il te connaît, et il peut se révéler à toi si tu le lui demandes. Comme Thomas, il peut se révéler à toi, il te connaît. Et il peut se révéler, il peut ouvrir les yeux de ton cœur, comme il a ouvert les yeux des disciples. Il peut te révéler ce qu'ils n'avaient pas compris, ce que les disciples n'avaient pas compris quand Jésus parlait, ce qu'ils n'avaient pas compris, les paroles prophétiques qui avaient été données, tout ce dont parlaient les Écritures, ils n'avaient pas compris. Et le Seigneur a ouvert leurs yeux sur le sens de ce qui était annoncé, sur la beauté de ce qui était annoncé, sur cette joie qui était à venir. Il n'y a rien que nous ne puissions faire pour mériter cela, c'est un cadeau. C'est un don précieux du Créateur envers ses créatures. Et c'est ça le vrai sens de Pâques. Cela doit être une fête, une célébration en l'honneur de notre Sauveur. Et on l'a chanté ce matin, on l'a déclaré ce matin. Jésus-Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et cette résurrection doit être une joie, une source de joie indestructible pour nous, qui durera jusque dans l'éternité. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis.